RTN Info. Sarah Massy.
Bonsoir, il n'y a pas eu de suspense lors de l'élection complémentaire au Conseil d'État neuchâtelois. Le socialiste Frédéric Marie a été élu dès le premier tour aujourd'hui avec plus de 82% des suffrages. Il remplace son camarade démissionnaire Laurent Courte dès le 1er mars. La commune de Bassareuse ne verra pas le jour. Milvigny a refusé de s'unir avec Boudrier-Cortaillot. Le nom est venu de là où on ne l'attendait pas forcément. Le mariage est en revanche consommé du côté de l'Athéna. Au Trive Saint-Blaise, Angers et l'Athènes ont choisi d'unir leur destin. Les citoyens ont accepté le projet de fusion qui leur était soumis. Le peuple n'élira pas son conseil communal à Val-de-Travers. Il a refusé d'après de 58% en votation populaire une initiative de l'UDC et d'Agora qui voulait modifier le mode d'élection. Le FC Kofran cartonne en voyage mais plafonne à la maison. Et le FC La Chaux-de-Fonds, lui, vit un exercice sans histoire. C'est le bilan à mi-saison des deux clubs neuchâtelois de première ligue de football. Sec le matin, humide l'après-midi, c'est ce que nous réserve le ciel demain. Le mercure va afficher l'après-midi entre 0 et 5 degrés. Le Parti socialiste neuchâtelois garde son second siège au Conseil d'État neuchâtelois. Frédéric Marie a été élu aujourd'hui avec 24 750 suffrages, alors que la majorité absolue se situait à un peu plus de 15 000. Le conseiller communal de Val-de-Travers remplacera le démissionnaire Laurent Courte, qui va quitter ses fonctions fin février. Arrivé en tête dans toutes les communes, Frédéric Marie se réjouit que sa candidature ait su convaincre au-delà des lignes partisanes.
J'y vois une belle marque de confiance de la population, des électeurs de tous bords aussi qui ont été sensibles à maintenir une certaine stabilité au niveau politique. Et puis j'ai vu au cours de la campagne passablement de personnes engagées en politique dans d'autres partis que le mien. Et puis qui m'ont dit voilà, avoir voté pour moi, ce qui fait plaisir. On sait que dans un exécutif on doit se situer au-delà des étiquettes partisanes. Et puis de voir que l'électeur aussi arrive à faire ce pas de voter une liste qui n'est pas la sienne habituellement pour le bien du canton, pour maintenir la dynamique en place, évidemment que c'est toujours assez touchant de voir qu'il y a cette confiance-là qui existe au-delà des partis.
Vous parlez de la campagne, elle a été assez morne, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de rebondissements. Vous, comment vous l'avez vécu cette campagne, pas forcément comme les autres ?
Alors c'était effectivement une campagne un peu différente, surtout de par l'absence de débat dans les médias. Moi j'ai essayé quand même de mener une campagne, d'aller à la rencontre de la population. J'avais proposé des rencontres dans les bistrots à l'heure de l'apéro, on a tenu des stands dans les marchés, distribué les croissants le matin à la gare. Donc pour moi c'était agréable aussi de rencontrer du monde, d'échanger avec la population. C'était sympa aussi pour des électeurs qui ne me connaissaient pas mais qui avait déjà voté pour moi, de pouvoir me rencontrer. Donc pour moi, c'était une campagne peut-être moins intense que d'autres, mais tout à fait agréable aussi, qui était relativement brève, hein, de par la tenue des fédérales fin octobre. Mais en tout cas, pour moi, une campagne très sympathique.
Le candidat du vote blanc, Thomas Wroblewski, arrive deuxième avec 3258 suffrages. Il réalise un score plus de trois fois supérieur à celui qu'il avait obtenu aux élections cantonales de 2021. Un score qui réjouit le modernocrate, d'autant que le taux de participation de cette complémentaire atteint à peine 22,7%. Thomas Wroblewski.
Oui, c'est très très peu. Et c'est pour ça que ce score est encore mieux dans ce cadre de cette petite participation qui est très faible. Dans l'idéal, un scrutin à moins de 50% foudrait d'annuler automatiquement. Hein. J'avais lu la réponse du Conseil d'État au Grand Conseil quand il y avait eu la recommandation pour retarder l'élection. Ils avaient dit, bon, avec le problème de calendrier et tout ça, et ils parlaient aussi de légitimité. Ils disaient, s'il y a trop peu de participation, les élus ne seront pas légitimes en fait. Et je trouve étonnant qu'ils se posent cette question maintenant, étant donné qu'il suffirait de mettre un quorum de participation.
Vous posez donc la légitimité de Frédéric Mairie aujourd'hui ?
Ah, 22%, non. 22% de participation, non. Personne n'est légitime à ce score-là de participation.
Un dossier signé Damien Piscopiello. En fin de classement, on retrouve l'ex-député UDC Jean-Luc Pironne, membre du Parti fédéraliste européen, avec 2083 suffrages. Le Vaudrusien a publié un communiqué dans la foulée pour se plaindre du traitement médiatique reçu durant la campagne. Malgré nos nombreuses sollicitations, il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Frédéric Mairie fera son entrée au gouvernement cantonal le 1er mars, après avoir été conseiller communal à Val-de-Travers pendant près de 10 ans. D'ici aux élections communales de juin 2024, les membres de l'exécutif communal wallonien fonctionneront à 4. Et on reparle de Val-de-Travers dans quelques minutes. Bassareuse ne deviendra pas la troisième plus grande commune du canton de Neuchâtel. La fusion entre Millevignes, Boudry et Cortaillot ne verra pas le jour. Le projet a été refusé du côté de Millevignes par 55,4% des votants. À l'inverse, Boudry a dit oui à 65,5% et Cortaillot à 62,1%. C'était la soupe à la grimace dans le camp des partisans. Le président du comité de pilotage de la fusion Bassareuse et conseiller communal à Millevignes, Philippe Dupac.
Une déception, une surprise aussi parce qu'on n'a pas entendu de la part de la population de Colombier. Il n'y avait pas de mouvement d'opposants qui était regroupé en association et on n'a pas entendu, on n'a pas pu entendre ce que la population pensait de ce projet et les raisons sont très difficiles à imaginer aujourd'hui, c'est trop tôt.
Vous allez essayer de comprendre, est-ce que vous pouvez avoir les détails des chiffres par localité au sein de Millevignes ?
Alors je ne sais pas, il faudra qu'on regarde ce qu'on peut obtenir comme détails. Ce sera aussi intéressant d'entendre les gens s'exprimer après coup et de comprendre quels éléments ont joué un rôle, est-ce que le nom a joué un rôle, est-ce que le fait d'avoir déjà fusionné et puis d'être très content du résultat aujourd'hui après 10 ans de vie de Millevignes, peut-être ça suffisait à certaines personnes. Il y avait des avantages dans le projet, notamment au niveau de l'équilibre de la fiscalité entre les trois communes. Je ne sais pas si ce message a suffisamment été compris par la population de Millevignes.
Du côté des gagnants, le comité Boudrisant non à Bassareuse. Il était heureux de l'issue du vote, mais regrettait le large oui à Boudry. La satisfaction était de mise, sans triomphalisme. Toutefois, le refus de Millevignes a également surpris Stéphane Keller, membre du comité.
Ah oui, très, parce que quand on discutait avec les gens de Millevignes, avec les politiques de Millevignes, on était sûr que Millevignes était acquis. Puis là, il y a deux, trois qui devraient se remettre en question de chez Millevignes.
Quelle lecture vous faites de ce résultat, Millevignes ? Comment vous l'expliquez ?
D'après moi, peut-être leur fusion de Millevignes n'est pas encore digérée, d'après moi. Et puis ça, ils l'ont peut-être oublié, la fusion était peut-être trop vite faite pour vouloir faire deuxième fusion en moins de 10 ans. Peut-être qu'ils se sont un peu plantés. Mais Millevignes avait tout à gagner en étant avec Boudry. Je n'ai pas compris pourquoi Millevignes a dit non. Mais indirectement, on a quand même gagné parce qu'on n'a pas de fusion.
Quel enseignement tirer de ce oui à Boudry, aussi à Cortaillot ? Est-ce qu'il faut partir dans un projet de fusion à deux ? En tout cas, il y a une volonté au sein de ces deux communes de fusionner.
Oui, pourquoi pas, peut-être une fois, mais pas maintenant. Il va falloir quand même dégérer ces fusions et puis voir dans quelques années. Déjà faire un bon travail avec Cortaillot, peut-être travailler plus ensemble avec Cortaillot. Puis après, on verra comment on va faire.
Un dossier réalisé par Jean-Paul Pitchy. Le taux de participation se monte à 38,8% à Boudry, 41,6% à Millevignes et 41,9% à Cortaillot. La commune de Lathenat prend en revanche son envol. Les citoyens d'Autrive, de Saint-Blaise, d'Ange et de Lathenay ont accepté de fusionner. C'est oui à 97% du côté d'Ange. Autrive a accepté cette union par près de 77% des voix et Lathenay par près de 73% des suffrages. Finalement à Saint-Blaise, le oui elle l'emporte par 67% des voix. Deux tentatives de fusion avaient échoué dans l'Entre-deux-Lacs en 2015 et 2016. C'est le troisième essai qui était le bon. Lathenay verra le jour le 1er janvier 2025 et comptera près de 11 600 habitants. La commune d'Ange attendait de longue date de fusionner avec ses voisins. Le résultat du jour a réjoui tout particulièrement Claude Guiziguer qui était jusqu'à fin 2020 conseiller communal à Ange.
C'est un sentiment très satisfaisant et haut pour Ange, mais aussi pour les trois autres communes. Je crois que ce projet était vraiment enthousiasmant, ce qui ne veut pas dire que les deux autres premiers projets n'étaient pas bien menés, mais bon, voilà, la population a toujours raison. Et il y a eu deux échecs successifs, donc aujourd'hui, grande satisfaction, grande joie aussi de se retrouver dans cette nouvelle commune, mais il y a beaucoup de travail à faire maintenant.
Qu'est-ce qui a changé la donne ? Peut-être le fait de partir avec un projet un tout petit peu plus petit, avec quatre communes plutôt que davantage ?
Bon, je crois que c'était clairement la leçon à tirer des deux premiers projets. Et ici, on a quand même une unité entre quatre communes et puis la présence d'Autrive qui n'était pas présente dans les deux premiers projets. Ça, je crois que ça a changé beaucoup les choses.
Parmi les voix qui se sont élevées contre ce projet de fusion figurait celle de l'ancien conseiller communal de Saint-Blaise, Olivier Hausner. Il livre sa réaction face au verdict des urnes.
Il n'y a aucune surprise qui a été attendue du moment qu'il n'y avait pas de comité qui était opposé à cette fusion. Il y avait plutôt des fusions sceptiques comme d'ailleurs moi. Puis c'est qu'à la suite de cette nouvelle entité, avec quelques années, qu'on verra si les le magnifique projet présenté répondra aux attentes de la population.
Oui, quels seront peut-être les points auxquels vous prêterez, vous, attention dans ces prochaines années?
Écoutez, moi, je suis extrêmement sensible, premièrement, à la proximité des prestations, ensuite à leur coût, qui est bien sûr traduit par l'impôt, qui est comme une augmentation pour Saint-Blaise, qu'il a accepté d'ailleurs assez largement, il faut le dire, cette fois. Et puis, en fait, c'est aussi au coût des autres prestations, que sont les taxes, le réseau d'eau, l'électricité, qui, à mon sens, il ne peut plus avoir de disparité à ce niveau-là non plus.
Un dossier préparé par Sonia Bernauer-Mia. Le taux de participation à ce scrutin est le plus élevé à Onge, avec 65,3%, suivi de Saint-Blaise, 47%, et Hauterive, qui affiche 42%. L'Athènes ferme la marche avec près de 33% de taux de participation. Le conseil communal de Val-de-Travers continuera d'être élu par le législatif. La population a refusé à près de 58% l'initiative populaire lancée par l'UDC et Agora, qui demandait que le peuple puisse élire l'exécutif. Tous les autres partis étaient opposés. Le taux de participation est très bas puisqu'il n'atteint même pas 29%. Un score qui interpelle mais qui est une constante à Val-de-Travers. Christophe Calam, président du conseil communal.
On constate cette problématique d'un très faible taux de participation à Val-de-Travers, scrutin après scrutin. C'est regrettable, on ne sait pas vraiment comment s'occuper de cette problématique-là. Vous le dites, notre conseiller communal en liste au Conseil d'État, on a espéré que cet élément-là pourrait amener l'électeur vers les urnes. Je ne sais pas comment on peut plus intéresser la population à se rendre aux urnes, mais... Voilà, c'est un nouveau constat de cette situation-là qui nous déplaît fortement.
Le fait justement que le peuple ne sera pas amené à élire le conseil communal au vu du taux de participation
Alors effectivement, parce que c'est vrai qu'ici, il n'y a finalement que 30% de la population qui donne son avis. Changer un système qui fonctionne sur la base de l'avis de 30% de la population, on pourrait aussi douter de la légitimité de la prise de position.
Le conseiller général UDC Nils Rosley-Christ relativise ce refus à 58%. Il est justement élevé en raison du faible taux de participation, mais au final, relève-t-il, 400 voix départagent le oui du non. Il ne rejoint pas non plus l'idée que ce manque d'engouement en votation doit avoir une incidence sur les droits politiques donnés au peuple. Nils Rosley-Christ.
Si on commence avec une réflexion qui va dans ce sens-là, on va finir par abolir la démocratie et c'est absolument inenvisageable, absolument impensable. Je pense que c'est une réflexion qu'il ne faut certainement pas avoir dans ce sens-là. Bien au contraire, je pense qu'il faut peut-être justement prôner davantage de démocratie, comme nous l'avons fait avec notre proposition, et trouver un moyen pour comprendre pourquoi les gens ne s'intéressent pas ou pas assez à ce qui se passe actuellement, comment redynamiser le débat public, comment redynamiser le droit de vote finalement, mais ce droit doit impérativement être maintenu, voire même étendu comme nous l'avons proposé, mais nous devons rendre à nouveau la chose publique attractive et ça c'est le devoir de chaque parti.
Le réaménagement du pôle de la gare peut aller de l'avant à Gorgier-Saint-Aubin. La population de la Grande Béroche a accepté par 51,25% de oui le changement d'affectation de deux parcelles situées dans ce secteur. Elles passeront de zone industrielle en zone mixte afin d'y construire des logements et développer des commerces. Le projet accepté par le Conseil général était combattu par référendum. Les résultats de cette élection complémentaire au Conseil d'État ainsi que toutes ces votations sont à retrouver sur rtn.ch. On votait également ailleurs en Suisse. Les Ougois vont payer encore moins d'impôts. Les citoyens du canton à faible fiscalité ont largement approuvé une révision de la loi en ce sens. Et puis les Nidwaldiens ont clairement rejeté par 87% des voix une initiative des milieux opposés aux mesures antipandémiques. Ce texte exigeait que les élèves et leurs parents donnent leur accord avant toute mesure sanitaire dans les écoles. La participation au scrutin atteint près de 35%. À l'étranger, infanticide en France, un père de famille s'est dénoncé après avoir tué ses trois enfants à Dieppe en Seine-Maritime. L'homme avait été condamné en 2021 pour violence conjugale avec interdiction de s'approcher de sa femme et de ses enfants. Le corps de deux de ses enfants ont été retrouvés dans le Val-de-Marne où il réside. Ils ont été tués par arme blanche. La libération d'otages se poursuit au Proche-Orient. L'armée israélienne annonce, annoncé aujourd'hui que la branche armée du Hamas avait remis au Comité international de la Croix-Rouge 14 otages israéliens et 3 étrangers. Il s'agit du troisième groupe d'otages libérés en 3 jours. Parallèlement, le Qatar a annoncé que 39 Palestiniens seront libérés des prisons israéliennes. Et puis le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en visite dans le territoire palestinien pour la première fois depuis le début du conflit, a affirmé que l'offensive israélienne se poursuivra jusqu'à la victoire contre le mouvement palestinien Hamas. Enfin, l'aéroport de Damas est hors d'usage. Il a de nouveau été la cible de frappe aérienne israélienne quelques heures après une reprise des vols à la suite d'une attaque similaire le mois dernier.
Sport.
On accueille Marcel Neuenschwander à 18h15 pour nous parler de sport. Par quoi allez-vous commencer, Marcel ?
Bonsoir Sarah, bonsoir effectivement. On va commencer par du ski alpin, c'est tout à fait de saison. Et sur ces terres, Michael Achifrine a mis les choses au point lors de la première manche du slalom spécial de Killington dans le Vermont. La skieuse américaine mène le bal devant l'allemande Lena Dürr et la slovaque Petra Vlova. Wendy Holdener occupe le quatrième rang avec 37 centièmes de retard sur Michael Achifrine. Le départ de la seconde manche est donné à 19h. En football, Lausanne Sport tient enfin son premier succès de la saison dans un derby vaudois de Super League. L'équipe de Ludovic Magnin a battu cet après-midi Stade Lausanne-Ouchy 1-0. Deux autres rencontres sont encore en cours. À moins d'un quart d'heure de la fin, Bâle mène contre Saint-Gall 2-0. Servette domine grâce aux Perses 1-0. Et en Challenge League, le leader Sion a été tenu en échec à Arreau 0 partout. Bellinzone a surpris Baden 3-1. Au classement, Sion conserve sa première place avec deux longueurs d'avance sur Thun. Neuchâtel-Xamax occupe le quatrième rang à égalité de points avec Ville et Arreau, mais au bénéfice d'un meilleur goal average. La moitié de la saison est bouclée en première ligue de football toujours. Au terme du premier tour de championnat, les deux clubs neuchâtelois occupent le ventre mou du classement. Le FC Cofrane est 6e et le FC La Chaux-de-Fonds est 9e. Le bilan est satisfaisant pour les uns comme pour les autres. Mais pour sa deuxième saison à ce niveau, le FC Cofrane a démontré qu'il était à même de s'installer durablement en première ligue. Cet automne, le club vaudrusien a toutefois laissé l'impression de signer des résultats en dents de scie. Cela mérite l'explication de l'entraîneur Philippe Perret.
Le bilan médical, il est vite fait. On est la meilleure équipe à l'extérieur du tour. On a 2 points avec un match de moins d'avance sur les autres équipes. Ça veut dire qu'on performe à l'extérieur. On a beaucoup de difficultés à domicile. Je crois que ça se résume déjà à ça. On a gagné que 2 fois. Et puis après, oui, c'était irrégularité. Pas tout mettre là-dessus, mais on a eu des soucis défensifs toute la saison avec un gardien qui nous a pas sécurisé, qui a un petit peu fragilisé tout le bloc défensif. Et puis devant, on n'a pas été assez efficace. Donc c'est un peu pour moi les explications à s'y trouver, parce que par rapport à l'année passée, je trouve que notre contingent est plus équilibré.
Et oui, contingent plus équilibré du côté du FC Cofrane. De son côté, le FC La Chaux-de-Fonds n'a ni étincelé de mille feux, ni jamais été ridicule au terme de ce premier tour de championnat. Il occupe donc une position, le 9e rang, qui ne lui permet pas actuellement de briguer les finales d'ascension. Mais il n'a pas non plus en danger de relégation. Cela n'enlève rien à l'intérêt de disputer le 2e tour. Et cela permettra aussi à l'entraîneur Pascal Opliguer d'intégrer encore mieux des juniors issus de la formation. On écoute Pascal Opliguer.
Un des objectifs où ça fait partie de la philosophie du club, c'est de pouvoir intégrer ces jeunes là, qui arrivent à un âge de 17-18 ans, qui sortent de la dernière catégorie de junior A, qui puissent s'entraîner avec le groupe, qui prennent le rythme, qu'ils aient aussi le rythme de la première ligue, l'intensité qui change par rapport au foot junior. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'à Chaux-de-Fonds, ces jeunes ont la chance de pouvoir évoluer, ils ont leur place. Et voilà, j'irai même un peu plus loin. Je pense que ces joueurs qui jouent maintenant depuis quelques années, j'irai 2 ans depuis que je suis là, moi, il y a des joueurs maintenant qui sont très jeunes, mais qui sont considérés comme des titulaires. Et peut-être ces 4-5 joueurs, dans 2-3 ans, ça pourrait faire office d'ossature déjà expérimentée avec un jeune âge, avec une identification de la région. Et puis, ça serait tout bénéfice pour le club.
Le FC La Chaux-de-Fonds n'est peut-être pas encore en vacances. Il aurait dû jouer hier à domicile contre le FC Sarre-et-Clapon, son dernier match avant Noël, mais celui-ci a été renvoyé à la demande de la Ligue. Ce match devait être refixé à mercredi sans aucune assurance, il est vrai, qu'il pourra se dérouler au vu des prévisions météo. Et on revient juste sur la Super Ligue de football pour vous dire que Servette mène désormais contre Guetze sur le score de 2-0. On approche de la fin du match. Il n'y a pas eu de miracle pour Union Neuchâtel en Swiss Basketball League. L'équipe de Mitar Trivonovic a perdu perdu sur le terrain du champion de Suisse en titre, Fribourg Olympique, par 84-77 au classement. Union Châtel demeure ainsi 8e. Et en National League de hockey sur glace, un match se déroule actuellement. Lausanne reçoit Ajoie après deux tiers temps. Les Vaudois menaient 4-0. Le tirage au sort des qualifications de la Coupe Davis de tennis n'a pas été trop favorable à la Suisse. Les joueurs helvétiques se rendront début février aux Pays-Bas, une nation qui compte dans ses rangs deux joueurs du top 50. La saison de Formule 1 s'est conclue comme d'habitude avec un succès de Max Verstappen. Le pilote néerlandais de l'écurie Red Bull a gagné le Grand Prix d'Abu Dhabi et ainsi fêté une 19e victoire en 22 courses depuis le début de la saison. Le pilote monégasque Charles Leclerc, qui a terminé deuxième, a concédé près de 18 secondes au vainqueur. Le britannique de l'écurie Mercedes, George Russell, complète le podium. Enfin, Francesco Bagnaia a fêté un deuxième titre mondial consécutif de MotoGP. Le pilote italien a gagné le Grand Prix de Valence aujourd'hui. Ultime manche de la saison, le seul pilote qui pouvait encore contester son titre, l'Espagnol Jorge Martin, est tombé.